radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Creuse.
En arrivant dans le bourg de Gouzon, vous passez devant le centre de loisirs qui accueille des pitchounes quand il n'y a pas école. Mais c'était quoi avant l'accueil de loisirs? Garderie municipale.
Je m'appelle Liliane.
Je m'appelle Martine.
Le centre d'accueil, eh ben, c'est... normalement c'est là-bas.
Où il y a les volets bleus.
Voilà. Et avant, c'était quoi où il y a les volets bleus?
L'ancienne gendarmerie, mais il y a très, très, très longtemps. Quand j'étais gamine, je crois. Oh non, je ne l'ai pas connue, moi.
Si, il me semble, moi, je l'ai connue. Enfin, mais je suis plus âgée que toi.
Bonne journée. Je suis en voiture avec
Michel.
Ça vous dit un truc, vous, l'accueil de loisirs dans Gouzon?
Alors, pas du tout. Aucune idée. Bonne journée.
Bonne journée. Je rentre dans le supermarché pour rencontrer Magali. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous pouvez m'en parler, vous, dans l'ancienne gendarmerie qui est maintenant l'accueil de loisirs dans Gouzon?
Ah non, je suis désolée, je suis trop jeune pour ça.
Bonjour Martine.
Bonjour Marina. Avant, c'était une gendarmerie. Donc, il y avait déjà du bleu, mais ce n'était pas le même bleu. C'était le bleu gendarme. Cette gendarmerie faisait partie de notre quotidien, puisque mes grands-parents paternels habitaient juste en face. Je voyais les gendarmes qui nous souriaient, qui nous... Et maintenant, la gendarmerie est partie rue des Poiriers. Alors là, c'est le petit jardin de l'ancien hôtel Bigné, mais on voit également le jardin de la gendarmerie qui fait partie maintenant du jardin du centre de loisirs.
Et c'est depuis quand que c'est un centre de loisirs?
Je pense qu'en effet, il a fallu attendre que la communauté de communes soit créée, et ça c'est 1992, puisque le centre de loisirs est relié à la communauté de communes. Donc on est bien à la fin des années 90, on est dans les années 2000.
Pourquoi les gendarmes sont partis de là?
Parce qu'on a construit, parce que c'était vraiment pas pratique. Si vous rentrez dedans, vous verrez l'escalier est très très inconfortable, minuscule. Alors je sais pas, il
donc
fallait pas
être
bien gros.
C'est mieux d'y mettre des petits.
Oui, mais les petits ne montent pas vraiment en haut non plus. Hein. Les plus grands font des activités, par exemple, de musique, je sais, en haut. Mais la gendarmerie, il y avait vraiment besoin de construire une autre gendarmerie. Donc, elle est partie là-bas, rue des Poiriers. Et maintenant, elle va encore redéménager et s'en aller du côté de l'Aiguillon. Il est arrivé un petit événement à ma grand-mère paternelle qui avait eu sa chambre au rez-de-chaussée dans la maison juste en face donc, de la gendarmerie. Et qui, en allant se coucher, a trouvé... elle avait dû laisser la porte ouverte, a trouvé un SDF qui était couché dans son lit. Et donc, ma grand-mère, complètement affolée, ça on peut le comprendre, ouvre la fenêtre de sa chambre et hurle « Au secours, les gendarmes, au secours, venez vite !» Et du coup, en habitant en face, elle a été secourue tout de suite.
Merci Martine. Bon, maintenant, vous saurez que l'accueil de loisirs à Gouzon accueillait avant les gendarmes.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici, Berry.
T'as-tu trouvé la muse dans la bouche-tu?
En périchon dans le texte.
Une muse, c'est un petit passage dans une clôture ou dans une haie. Musser, ça veut dire se faufiler dans les passages étroits. Les pêcheurs y disent, c'est dans le corset du sauterio qu'il faut musser l'hameçon. Mais musser, c'est aussi se cacher, d'où les termes de mussuaire ou de mussio, pour désigner des petites cachettes là où, par exemple, les rongeurs cachent leurs provisions pour l'hiver. Dans « Autour du poêle à deux marmites », Georges Blanchard nous raconte l'histoire de la musse. La musse, au milieu de la bouchetue, elle se cache en termit deux pernaillés, qui mélangeont yeux pio crochu pour empiger les arcanillés. Oh, faut la chercher pour la connaître. La viorne et l'arbre ont pu tresser un ridio qui garnit sa fenêtre et qu'il faut écarter pour passer. Si les vieux voyons pour la muse, oh, les gamins la connaissons, ben, eux qui passeraient dans un trou de puce et filons comme un pet de lapin. Pourtant, dès que le printemps commence à mettre le tchur à Saint-Marcy, la bouchetue arrondit sa panse pour mieux cacher son raccourci. De l'autre côté, il y a le champ de luzarne avec ses renfoncis ambreux. Et là... c'est l'amour qui gouverne, là que venons se cacher les amoureux. Les biogalants poussent aux yeux belles dans la muse à l'ergot pointu qui vint graffiner les rebelles sans pouvoir sauver yeux vartus. Combien de gamins sont venus au monde parce que un beau soir yeux ment avec un gars dru volontaire à passer la muse en se promenant. Puis 30 ans, j'ai gardé l'image de la muse au fin ridio fleuri et je suis revenu, bio pèlerinage, pour y chauffer mon cœur flottri. Je l'ai revu au milieu de la bouchetue. Et je suis reparti, le corpulent. La muse, en xacupio crochu, est seulement ouverte aux jeunes gars.
Ici.
Actu local, musique et bonne humeur.
J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant. J'ai dû surtout m'adapter. Y'a pas que les gènes qui font les familles. Des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main. Jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'inverse nous touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche toi et moi, prends ma main. Adopté en vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y'a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main, dis.
Prends le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici au Serre.
Dans Minute Papillon, Thierry, on réveille vos souvenirs dans le Morvan et on fouille dans vos greniers à la recherche de tous vos films oubliés. Vous avez peut-être au fond d'une vieille malle, cachée dans un tiroir ou enfouie dans des cartons poussiéreux, un peu de la mémoire de votre village, des usages de votre région. Ces quelques instants de vie témoignent d'une époque, de la façon dont les gens d'ici grandissaient, se mariaient, s'amusaient. Les films de vacances, des fêtes de village, de réunions de famille, les événements de la paroisse, les films d'entreprise, les compétitions de quartier, tout parle de notre histoire.
À la vôtre, les enfants.
Allez, salut les petits.
Allez.
L'association Ofnibus collecte, numérise et valorise les films amateurs. Tout est expliqué sur son site et sa page Facebook. Des bobines Super 8, des cassettes VHS, des bandes magnétiques, les archives que les habitants apportent sont restaurées, puis seront présentées lors d'une projection publique accompagnée de musique. L'initiative a pour objectif la sauvegarde du patrimoine local menacé par l'obsolescence des supports. Nos vieilles cassettes ou nos vieux films se détériorent. Les habitants peuvent choisir de verser leurs films aux archives départementales ou de les conserver après leur numérisation. À travers cette opération, vos petites histoires de la vie quotidienne entrent dans notre grand récit collectif. Vos souvenirs sur celluloïdes alimentent notre mémoire commune au lieu de se perdre au fond d'un grenier et de disparaître à jamais.
Les souvenirs sont ces incroyables images qui peu à peu ont fait naufrage dans les eaux troubles d'un autre âge. Les souvenirs, ils nous font mal.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Garloser.
Bonjour, David Bayle, pratiquant d'attelage canin, président de l'association Toc Lozère, organisateur d'une manifestation canine intitulée Les Sources, qui a lieu chaque année au mois de décembre sur plusieurs jours. J'ai récupéré deux chiens de husky, j'ai cherché des activités qui étaient possibles. J'étais un pratiquant de randonnée pédestre et forcément j'ai basculé sur l'attelage canin. Donc j'ai attaqué avec deux chiens et maintenant j'en suis à 7.
Et d'où vient la passion? Qu'est-ce qui fait que vous accrochez à fond comme ça sur cette activité?
Le territoire de la Lozère qui se prête à merveille à cette activité et le fait d'être dehors, au milieu des éléments naturels, avec des compagnons à quatre pattes.
Qu'est-ce qu'ils vous apportent, les chiens, à vous, personnellement?
Oh, mais là, je vais devoir m'allonger et faire de la psychanalyse, mais c'est des compagnons de vie, de route, c'est de la famille, c'est mes copains.
Alors, je teste pour la première fois le canirando. Qu'est-ce que je vais vivre?
Vous allez découvrir une activité où vous allez être aidé dans la marche avec des chiens qui vont vous entraîner. Donc, si vous vous mettez à courir, ils vont courir. Si vous marchez avec l'appui de certains mots, vous allez les calmer, vous allez les diriger. Vous n'avez pas de rênes, donc si vous voulez qu'ils partent à droite et à gauche, on va faire le point sur les termes employés et vous verrez que vous serez assisté. Vous avez les vélos à assistance électrique et là, c'est de la marche avec assistance animale. C'est une activité douce, familiale, puisque c'est ouvert à tout le monde. Et non, c'est de la marche à pied, aidée, où ça vous permet de découvrir les chiens qui tractent. C'est une première approche de l'attelage canin. C'est une activité qui peut se pratiquer toute l'année, en évitant forcément les grandes chaleurs. Là, moi, j'ai des nordiques, puisque ce sont des huskies de Sibérie. C'est des chiens qui, dans leur élément naturel, vivent par moins 40 degrés. Donc là, aujourd'hui, c'est couvert. Il doit faire dans les alentours de 10 degrés. C'est le minimum. Voilà. Au-delà, je vous aurais dit que non, c'était pas possible.
Ici.
Moi, je fuis la rancœur à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie.
T'as touché le vent tendu.
La machine à penser est cassée. C'est l'histoire des enfoirés.
Les restos du cœur serré.
Les girondelles bénévoles, mais jamais assez.
Si tu crois. j'ai soif et faim.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Béarn Bigorre.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette 11e saison d'Affaires Classées, le podcast. Nous sommes en mars 1980. On juge dans la salle de la cour d'assises un certain Norbert Garceau, un assassin récidiviste connu en Bigorre. Et dans le public, discrètement assis, il y a un chanteur, un certain Julien Clerc. Que faisait-il là ? Réponse dans un instant.
Affaires Classées. Un podcast ici.
Mardi 11 mars 1980, une foule de curieux, d'anonymes se bouscule aux portes de l'imposante salle de la cour d'assises au palais de justice de Toulouse. Depuis la veille, on y juge Norbert Garceau. Un quinquagénaire accusé d'avoir assassiné, 2 ans plus tôt, une collègue de travail dans le Tarn. En juin 79, Garceau fut condamné à mort pour ce crime à Albi, mais grâce à un vice de procédure, le verdict fut cassé et l'affaire rejugée dans le département voisin. Le procès sort de l'ordinaire car l'accusé est un fâcheux récidiviste. Il risque la guillotine à une époque où le sujet divise profondément le pays. Sa défense est assurée par le ténor parisien Robert Badinter, qui mène depuis une décennie un féroce combat contre la peine de mort. Celui qui deviendra l'année suivante le garde des Sceaux de François Mitterrand avait réussi en 1977 à sauver la tête du tueur d'enfants Patrick Henry devant la cour d'assises à Troyes malgré un contexte explosif. Réussira-t-il cette fois à éviter la guillotine à son client ? Dans l'assistance, il y a un homme jeune, sagement assis sur les bancs en bois de la salle d'audience. Le public est si dense que nul n'a remarqué la présence de ce spectateur âgé d'une trentaine d'années, aux cheveux bruns et bouclés, déjà si familier des plateaux télévisés. Pour la première fois de sa vie, Julien Clerc, le chanteur populaire aux titres si nombreux, si légendaires, Niagara, Ce n'est rien, Si on chantait, Ma préférence, La cavalerie et tant d'autres, il s'est glissé discrètement parmi les anonymes venus écouter le réquisitoire de l'avocat général et surtout la plaidoirie, le combat que Robert Badinter s'apprête à livrer. Drapé dans sa robe noire, de sa voix de stentor qui contraste avec sa silhouette si frêle. La peine de mort, c'est un sujet qui taraude le jeune chanteur à tel point qu'il en écrirait volontiers une chanson. Julien Clerc est bouleversé par l'ambiance électrique qui règne dans cette salle des assises, dans les rangs du public. La plupart des spectateurs veulent la mort de l'accusé. La mort, un mot qui a le don de révolter l'artiste.
Affaire classée avec Thierry Sagardoito.
Au nom de la société, l'avocat général, M. Ders, réclame une nouvelle fois la guillotine contre Norbert Garceau. Les faits remontent au matin du 9 janvier 1978. Norbert est employé comme ouvrier ajusteur aux aciéries métallurgiques de Sceaux-du-Tarn. Jugé sérieux par ses supérieurs, cet homme marié, sans histoire, livre une course sans relâche à Michèle, une jeune collègue de travail qui élève seule ses 2 enfants en bas âge. Ces derniers temps, Norbert a pris l'habitude de faire le trajet qui le mène à l'usine à bord du véhicule de Michèle. an, les deux ouvriers manquent à l'appel ce lundi matin. Norbert se présente au travail le lendemain, un certificat médical à la main pour justifier de son absence la veille. Michel, en revanche, demeure introuvable. Une enquête judiciaire est ouverte. La dépouille de la jeune femme sera découverte par un paysan. Trois semaines plus tard, le 3 février 1978, dans le village aveyronnais de Saint-Just-sur-Viaure, la malheureuse a été violée, puis étranglée. Selon le médecin légiste, le tueur a utilisé un bas de nylon. Un redoutable jeu de pistes débute pour les policiers du SRPJ toulousain qui, à force de fermer toutes les pistes possibles, s'intéresse à Norbert, le bienveillant collègue qui est sans doute le dernier témoin à avoir vu Michel vivante. En fouillant les fichiers, les enquêteurs font une découverte stupéfiante. 30 ans plus tôt, l'ouvrier modèle avait déjà trempé dans une retentissante affaire criminelle que tout le monde a oubliée depuis. C'était à l'été 1952, dans le village bigourdan de Gèdre, près de Gavarny. Norbert Garceau y avait étranglé sa petite voisine à l'aide d'une ficelle de chanvre. Un mode opératoire très similaire à notre affaire et qui conduit à l'interpellation de l'ouvrier modèle dont la nouvelle épouse et les employeurs ignoraient totalement son sombre passé. Placé en garde à vue, le suspect passe partiellement aux aveux, même s'il mélange certains détails. Son procès s'ouvre l'année suivante à Albi. Récidiviste, il risque fort la guillotine.
Affaire classée, un podcast ici Béarn Bigorre.
Le premier procès du meurtre de Michel Ossilloux s'ouvre le 12 juin 1979 aux assises du Tarn. L'ambiance est survoltée. Les proches de la défunte hurlent vengeance. À leurs yeux, seule la guillotine aura raison de ce meurtrier récidiviste. Experts et psychiatres sont convoqués à la barre. Comment cet homme, déjà condamné à Tarbes en 1953 pour le meurtre d'une fillette alors qu'il avait 26 ans, devenu un époux et ouvrier modèle, a-t-il pu recommencer ? Incapable de maîtriser ses pulsions sexuelles, l'accusé ne souffre en apparence d'aucune anomalie psychiatrique ou mentale. Enfermé durant 20 ans à l'ombre de la prison de Muret, il avait été libéré en 1972 pour bonne conduite. Au terme de son délibéré, la cour condamne Norbert Garceau à la peine de mort, un châtiment auquel il échappe lors de son procès à Tarbes en 1953. Mais cette fois, aucune indulgence. Soulagé, la foule accueille le verdict albigeois dans un tonnerre d'applaudissements, à tel point que le président Lagravert ordonne l'évacuation du public. La peine de mort fait débat dans la France giscardienne de l'époque. Deux jours plus tôt, le 14 juin 1979, la commission des lois de l'Assemblée nationale venait de se prononcer en faveur de l'abolition du châtiment suprême. Dans les trois jours suivant le verdict, Norbert Garceau signe depuis sa cellule un pourvoi en cassation. Il faut dire qu'à l'époque, les condamnés n'avaient que deux espoirs pour échapper au couperet. Le pourvoi en cassation et le recours en grâce. En septembre 79, c'est la douche froide. À cause d'une date oubliée sur le procès-verbal des débats, la Cour de cassation à Paris annule l'arrêt des magistrats d'Albi. Patatras, il faut tout recommencer. C'est donc à Toulouse, en mars 1980, que le sort de Garceau va se jouer. Mais cette fois, l'accusé a musclé sa défense. Il s'entoure du ténor toulousain Georges Catala et du féroce parisien Robert Badinter qui, pour défendre son client, va faire le procès de la peine de mort avec toute son horreur, comme il le fit avec succès naguère à Troyes pour Patrick Henry.
Ici Béarn Bigorre.
Affaire classée
avec Thierry Sagardoito.
Norbert Garceau répond du meurtre de Michel Ossiou. Mais le procès de ce tueur récidiviste au début des années 80 ramène les juges à examiner ce qui s'était passé en Bigorre à l'été 1952. Dans l'après-midi du 12 août, Yvette, une adolescente habitant le village de Gèdre à deux pas de Gavarny, rentre au domicile de ses parents où elle grandit aux côtés de son petit frère. Yvette est une fille sage. Elle sort rarement, préférant aider sa mère aux tâches ménagères et aux devoirs de son cadet. Son joli visage attire les regards des jeunes du village, mais Yvette s'en moque. Revenant d'une séance d'essayage de sa nouvelle robe chez la couturière, la jeune fille croise près de l'hôtel de la grotte un voisin prénommé Norbert. Un homme âgé d'environ 25 ans, marié, père d'un petit garçon. Il fait chaud. Le bourg du village est désert. Yvette salue le jeune voisin et la conversation s'engage. On parle de tout, de rien. Et puisqu'il fait beau, Norbert lui propose d'aller au bois et cueillir des champignons. Au terme d'une assez longue marche dans la clairière, Yvette se sent fatiguée par la chaleur ambiante. Elle s'assoit au pied d'un arbre. Norbert s'approche. Il offre de la soulager en lui caressant les épaules. Yvette se laisse faire. C'est la première fois. Mais Norbert n'en reste pas là. Il l'embrasse, l'étreint, puis tente un rapport sexuel. Pétrifiée, Yvette réalise que cet homme marié tente d'abuser d'elle. « Lâche-moi, dit-elle. Je vais tout révéler à mes parents. » Et tandis qu'elle se relève, l'adolescente ne voit rien de ce que Norbert prépare. Ramassant une petite branche, il enroule un morceau de corde et prépare un garrot grâce auquel, par surprise, il étrangle la fillette si fort jusqu'à ce qu'elle s'étouffe. À la tombée de la nuit, les parents d'Yvette sont morts d'angoisse. Où est-elle passée ? Les recherches débuteront le lendemain matin car un violent orage déchire le ciel des sommets de Gavarnie. Le corps d'Yvette sera découvert, dissimulé sous des branchages à 2 kilomètres du village. Mais qui a commis ce crime ?
Affaire classée avec Thierry Sagardoito.
Les enquêteurs de la PJ toulousaine mettront moins de 20 jours pour identifier et localiser l'assassin. Le lendemain du drame, Norbert Garceau avait bizarrement disparu du village de Gèdre. « Pour travailler », dira-t-il aux policiers qui l'interpellent dans un foyer pour travailleurs dans les Pyrénées-Orientales. Confondu par les témoignages d'habitants qui l'ont aperçu, marchant à pied avec Yvette, peu avant leur supposé du crime, le suspect craque. Il avoue qu'il était tombé secrètement fou amoureux de l'adolescente. Il a perdu la tête quand elle a repoussé ses avances. Effrayé par la menace d'être dénoncé, redoutant le scandale, il a préféré la faire taire en l'étranglant. « Je suis un pauvre type », lâche-t-il avant de signer le procès-verbal de ses aveux. Détail sordide. Le lendemain du crime, Garceau s'était recueilli au chevet de la malheureuse comme tous les autres habitants de Gèdre. Son procès s'ouvre en juin 1953 au palais de justice de Tarbes. Et pour l'occasion, le public est venu en masse. Fils de fonctionnaire, Garceau était honorablement connu dans son village jusqu'à ce maudit 12 août 1952. À son procès, il n'affiche aucune émotion, malgré les sanglots déchirants de la maman d'Yvette. Garceau est-il un monstre ? Oui, aux yeux de l'avocat général M. Fabre, qui ne décèle aucune circonstance atténuante. Non, pour la cour et le jury qui le condamnent à la prison à perpétuité. Prisonnier modèle, il est libéré 2 décennies plus tard, mais il récidive en 78 à Albi, tuant cette fois une collègue de travail. Lors du procès à Toulouse, le chanteur Julien Clerc s'est fondu dans l'assistance. Il contemple le vibrant plaidoyer de Robert Badinter qui évite la guillotine à son client pour la seconde fois. De retour à Paris, Julien Clerc en fait une chanson, L'assassin assassiné. J'y pense encore, confiait-il récemment sur un plateau télé. Il fallait du courage à l'époque pour s'opposer à la peine de mort. Robert Badinter l'en remerciera par un petit mot. Il écrit ceci. Votre chanson a fait bien plus pour la cause que 20 conférences et 30 discours.
C'était un jour à la maison. Je voulais faire une chanson d'amour, peut-être, à côté de la fenêtre. Quelqu'un que j'aime et qui m'aimait. Lisait un livre de Giono. Et moi penché sur mon piano, comme sur un établi magique, j'essayais d'ajuster les mots à ma musique. Le matin même, à la santé, un homme avait été exécuté, et nous étions si tranquilles. Là, au cœur battant de la ville, c'était une fin d'après-midi, à l'heure où les ombres fidèles la nuit, comme aujourd'hui, ils sont venus à pas de loup, ils lui ont dit d'un ton doux, ce jour c'est l'heure. Les a regardés sans couleur. Il était à moitié nu. Voulez-vous écrire une lettre? Il a dit oui. Il a pas pu. Il a pris une cigarette. Sur mon travail tombait le soir, mais les mots restaient dans le noir. Qu'on me pardonne, mais on ne peut certains jours écrire des chansons d'amour. Alors j'ai fermé mon piano. Les musiques de personne, et j'ai pensé à ce salon où s'en laver sur le pavé par ces bourreaux. Je ne suis président de rien, moi je ne suis qu'un musicien. Assassins commence, oui, mais la société recommence. Le sang d'un condamné à mort, c'est du sang d'homme, c'en est encore, c'en est encore. Chacun son tour, ça n'est pas drôle. Deux, trois.
parole et un peu d'alcool. On lui parle, on l'attache, on le cache. Dans la cour, un gondin noir protège sa mort des regards. Et puis ensuite, ça va très vite, le temps que l'on vous décapite.
Chanteur et l'assassin, c'était le premier de cette 11e saison des Affaires classées. Je vous retrouve dans un très prochain numéro. Nous irons du côté de Biarritz en juin 1996. Un enseignant retraité disparaît subitement. Sa villa est sans dessus-dessous. Une seule question inquiète ses proches. Que lui est-il arrivé ?
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ICI Azur.
Engagé, entraînant et inquiet. Je crois qu'on a tous besoin de sens dans nos vies. On ne peut pas se lever le matin en se disant « Tiens, je suis à la retraite, je vais m'asseoir sur un banc et attendre que le soleil se couche. » Ça ne peut pas être ça, la vie. Pour le coup, les restos, ça donne vraiment du sens à une existence.
Qu'est-ce qui vous a conduit au Resto du Cœur, vous, François ?
L'amitié. J'ai un ami que je vois souvent, qui me parlait à l'époque où j'étais encore en activité, de son activité au Resto du Cœur. Et ça me faisait envie. Je me suis dit, tiens, quand j'arrêterai de travailler, je taperai à la porte des Restos du Cœur. C'est ce que j'ai fait. J'ai été embauché comme chauffeur, quoi. Je faisais des ramasses. Dans les fonctions que j'occupe, là, de président de l'association, il y a beaucoup de communication. En définitive, je dis souvent que les Restos du Cœur, tout le monde les connaît. Mais personne ne sait vraiment ce qu'on y fait.
On peut faire les plus belles choses du monde, si on ne le fait pas savoir, on n'avance pas.
C'est exactement ça, il faut faire savoir, il faut expliquer qui on est. Je fais attention beaucoup à ça, à ne pas verser dans le misérabilisme. C'est-à-dire, il ne faut pas faire pleurer sur les choses, ça ne sert à rien. Puis ce n'est pas notre rôle. On est là pour prendre le monde comme il est, on ne veut pas le changer, on ne fait pas de la politique. On peut constater que parfois il est injuste et mal foutu. Mais ce qu'on veut, nous, c'est être aux côtés des plus fragiles. C'est notre mission. Il ne faut pas se tromper d'enjeu. On n'est pas là pour faire la révolution, on est là pour aider ceux qui souffrent dans l'instant présent.
La politique, ça vous tente pas ?
Du tout, non. Ça m'a tenté quand j'étais tout jeune, et d'une certaine manière, ce que je fais aujourd'hui, c'est une fidélité à ce que j'étais quand j'étais jeune, et aux engagements que j'avais à l'époque. La boucle s'est bouclée avec ma jeunesse. Ça a pris d'autres formes, qui ne sont pas des engagements politiques, mais des engagements associatifs et solidaires.
Vous êtes plus heureux que s'il n'y avait pas les restos dans votre vie ?
Ah, certainement, oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, si je n'avais pas ça, moi, j'aurais fait autre chose de toute façon. Oui. Je n'imaginais pas ma retraite à ne rien faire, quoi, ou à jouer aux boules. Vous avez besoin d'être aux côtés des autres, quoi. On n'est jamais heureux tout seul. Être heureux, c'est être dans le monde avec les autres. Ça peut prendre une forme très, très forte qui est d'être aux côtés des plus fragiles. C'est une rencontre, les restos. Enfin, c'est comme tout engagement, hein. Ça se passe ou ça ne se passe pas. Donc, moi, je dis aux gens, venez voir. Rencontrer les bénévoles. On vient pas là comme dans un club de bridge, quoi. On s'engage dans quelque chose. Et puis, il y a une relation à l'autre en difficulté et qu'on aide. Dans cet engagement solidaire, il y a une force qui n'est pas neutre.
On prend le monde tel qu'il est, on va pas faire la révolution. Et pour autant, j'ai envie de vous demander, François, si vous pouviez dessiner là, en quelques secondes, la société idéale, ce serait quoi ?
Oh, la société idéale, je la connais pas, je crois qu'elle n'existe pas d'ailleurs. Ce serait une société où, effectivement, la question de l'alimentation dans les familles, serait entièrement réglé. Notre société est riche, très riche. Et malgré cela, elle produit de la pauvreté. Ça, c'est pas normal.
Ici,
actu local, musique et bonne humeur.
Ces gens qui m'écrasent, quand je serai fatigué de leur dire toujours les mêmes phrases, quand leurs mots voleront un éclat, quand il n'y aura plus que des murs en face de moi, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Quand je serai fatigué d'avancer dans les brumes d'un métier où tu marches ou tu crèves, lorsque demain ne m'apportera que les cris inhumains d'une meute aux abois, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Il y a les étoiles qui courent dans la neige autour de son chalet de bois, il y a les guirlandes qui du toit. Et la nuit descend sur les sapins blancs, juste quand elle frappe les doigts, juste quand elle frappe les doigts. Quand j'aurai tout donné, tout écrit, quand je n'aurai plus ma place, au lieu de me jeter sur le premier Jésus-Christ qui passe, je prendrai ma guitare avec moi et peut-être mon chien s'il est encore là, et j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie, chez la dame de Haute-Savoie.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici, Berry.
Bonjour Johan.
Salut Manu.
Merci de nous recevoir avec un service de céramique.
Ah oui, la céramique, c'est quelque chose d'important dans l'histoire de l'art pour moi. Quand ce n'est pas un vase ou une pièce de décoration, c'est usuel. Donc, je te présente ce service. C'est un service qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un service qui a été créé par Robert Picot, qui était un céramiste Valoris extrêmement connu. Robert Picot, il fait partie de l'entourage des Roger Capron, des Jean Marais, des Picasso, de tous ces grands céramistes qui se sont tous installés à un moment au milieu du 20e à Valoris, dans le sud de la France. On le connaît surtout pour ses céramiques, pour ses pichets, tu vois. Par exemple, celui-là, c'est un pichet aussi de Robert Picot.
RP.
Et avec RP au fond, eh ben, il n'y a pas de doute, c'est Robert Picot. Robert Picot, très grosse production en vaisselle, en pièces de forme, etc. Il est vraiment connu pour sa vaisselle. Donc là, tu vois, on a un service d'une vingtaine d'assiettes. On a les plats de service, le saladier. La particularité de ce service-là, c'est qu'il n'est pas justement dans les fonds verts comme on connaît chez Picot. Il porte un fond blanc et un décor de fleurs bleues et jaunes.
Ouais.
Ça, c'est important de le signaler. C'est pas courant. C'est un service qui est très très en vogue. On est vraiment dans la tendance de l'utilisation de la céramique à table, sur les tables aujourd'hui, qu'on utilise tous les jours. Donc c'est quelque chose de très usuel et de très pratique. Je suis très content. J'ai eu la chance de pouvoir l'acquérir dans Affaire conclue sur le plateau. On a beaucoup de céramique de Robert Picot sur le plateau, et moi quand je peux en emporter, boum, je ramène à la maison, parce que j'ai envie de proposer cette belle céramique des années 50 à la maison.
La valeur.
4 plats de service, un saladier, une vingtaine d'assiettes, on est autour de 700 euros. Affaire conclue, cher monsieur. Bon, tu valides ?
Je valide.
Allez, c'est parti.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici, Pays d'Auvergne.
Stéphanie Zelen est là, elle est allemande. Elle a quitté son pays il y a quelques dizaines d'années et nous raconte son histoire. Stéphanie, nous sommes donc dans cette église Notre-Dame de Chamalières. Superbe église, hein ?
Oui, elle est vraiment très très belle. Donc à l'origine, c'est bien une église romane. On le voit quand on entre. Et qu'on entre dans, vraiment dans la partie ancienne de l'église. Ensuite, quand on se dirige vers le chœur, on a vraiment une très belle hauteur, très beaux vitraux. Et on se sent immédiatement bien dès qu'on entre dans cette église, parce que vraiment, ces pierres vivent, elles vibrent.
Qu'est-ce que vous ressentez?
Alors, je ressens quelque chose qui, pour moi, est vraiment quelque chose qui me relie essentiellement à l'Auvergne, c'est cette notion, quelque part, d'authenticité. En Allemagne, en fait, on a quasi plus du tout d'église ancienne. Cologne, tout le monde a en tête la cathédrale gothique, mais tout le monde a peut-être en tête aussi cette image de destruction où il n'y a que la cathédrale debout et toutes les églises romanes de Cologne qui sont tout simplement détruites. Elles ont été reconstruites. Et d'ailleurs, un camarade clermontois qui venait me voir et à qui je montrais fièrement hein, ces églises, on lui dit, ouais, mais c'est que des églises reconstruites. À l'époque, ça m'a vexé parce que je ne connaissais pas encore. Maintenant, ouais. Effectivement,
ouais,
que ce soit Chamalières, Orcival, on est dans de la vraie pierre très ancienne, ça vibre, c'est extraordinaire.
On peut dire que les pierres ont une mémoire, on pourrait le dire, ça ?
Je pense que... Je porte aussi toujours des pierres.
Oui,
je pense qu'effectivement, tout ce qui est pierre, c'est aussi la vie sur terre. Et donc ici, on est donc sur la tribune d'orgue. Donc les tribunes d'orgue, je les connais depuis mon enfance parce que j'ai fait partie de la chorale d'enfants. On chantait tous les dimanches.
Donc, en Allemagne.
En Allemagne.
Oui.
Pour une messe, on chantait la messe du couronnement de Mozart, une messe de Dvorak, une messe de Schubert pour Noël.
Donc, la culture est plus importante, le chant choral est plus important en Allemagne qu'en France.
Tant qu'il y a beaucoup d'offices, il y a beaucoup de chants. Il y a aussi le fait qu'en Allemagne, les organistes sont vraiment des employés rémunérés, salariés. Donc c'est leur activité pleine et entière. Il y avait chez nous 9000 habitants, 7000 catholiques, 5 messes le dimanche.
Ah oui, quand même. Oui,
donc
oui,
pour dire l'importance. Activité,
oui.
Voilà. Donc du coup, voilà, on chantait. C'était toujours avec plein de copains. Donc du coup, quand on avait fini un morceau, on avait le droit de le jouer à la messe. Donc ça fait, c'est pas un concert en plus. Parce qu'on joue pour les gens, pour que les gens se sentent bien. Et j'aime ça.
Ici, actu locale, musique et bonne humeur.
I'd like to stay in love with you all summer and after fall. I'll keep. Run away. Do I not chase you through the meadow? Do I?
La nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Occitanie.
Et Alicia, Zadicias, oui, vous n'avez pas une petite idée?
Non, non, là non.
Bah, je suis sûr que certains de nos auditeurs connaissent l'expression Abisto de Nas. Eh, vous voyez bien. Et Abisto de Nas, qu'est-ce qu'on dit? Bah, c'est ça, c'est littéralement à vue de nez. Abisto de Nas, c'est au pifomètre, environ, approximativement, etc. Bref, dans certains cas, c'est même une tournure bien pratique quand on a la cagne. Ou la cagne, on tendait la flemme quand on ne veut pas trop chercher.
Ouais, c'est vrai. Même quand on fait la cuisine, il y a par exemple.
Mais oh, Bertha, tu peux la cuisine au tabé. Hein. Pour la cuisine également, surtout pour doser les ingrédients. Et la cuisine au Abisto de Nas. Luna, c'est donc le nez en occitan. Et ce mot est utilisé pour diverses locutions. T'es, France, savez-vous ce que signifie Duna del Nas? Duna del Nas, c'est.
Donner du nez.
Ouais, c'est ouais. Donner du nez. Mot pour mot, c'est vraiment ça. C'est-à-dire mépriser, ouais. Dédaigner. Et ouais, le poète occitan et toulousain du XVIIe siècle, Peyrégoulou, regrettait que les bourgeois toulousains de l'époque donnaient del nas à la lingua mondino, c'est-à-dire méprisent, l'occitan méprise la langue historique de Toulouse.
Ouais, ils avaient une certaine forme d'arrogance.
Et ouais, c'est ça, c'est ce que dit en tout cas Peyrégoulou. Leba bon lunas, leba lunas, c'est donc prendre une attitude arrogante. Ouais. Il était comme ça, notre poète toulousain de la place Wilson. Peyrégoulou cercava pas lunas d'arrié l'aurelio. Il ne cherchait pas de midi à 14h. Il disait les choses franchement. Chercher de midi à 14h, se dit en occitan, cerca lunas d'arrié l'aurelio. C'est-à-dire chercher le nez, ou ça, derrière l'oreille.
Écoutez ici, la nuit. Et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Bourgogne.
Sur Dijon, pas de chichi chez Duclos Maillard. On pense vite quartier et vin de Bourgogne. Un amour du terroir partagé par la clientèle. En voici la preuve avec Jeff, client fidèle chez Duclos Maillard.
Ça fait un an que je vais régulièrement ici. J'ai aménagé dans le quartier déjà. Et puis c'est vrai qu'ici, on est bien accueillis. Et on trouve des vins à des prix corrects, notamment parce qu'ils mettent quand même plus l'accent sur le produit que sur le marketing pour la boutique, par exemple. Moi et ma compagne, on est amateurs de vins. Et puis ici, on achète essentiellement des vins de Bourgogne.
Qu'est-ce que vous avez bu récemment ici qui vous a bien plu, qui vous avait été conseillé alors?
Le Bourgogne Chardonnay bio.
Oui.
Voilà, le château de Chemilly, ouais.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce vin?
Il est vraiment bien rond, puis il se rapproche d'un vin de très grande qualité de vin blanc de Bourgogne, quoi. Et puis il est à 25 euros.
Ah oui, effectivement.
Oui.
Bonjour, messieurs, dames.
C'est pas mal, c'est assez élégant. Pour les fêtes, ça irait bien avec tout ce qui est viande blanche et tout, puis le chapeau. Mais il y a aussi le Montclis. J'aime bien le Montclis rouge 2022. Alors, c'est dans les 25 euros.
Je pense que je vais faire un mix
ouais,
de quelques années bouteilles que vous avez évoquées. Le Côte de Nuit Village,
deux comme ça,
deux Choret-les-Bonnes et,
ouais,
et deux Montélis rouge 2022, s'il vous plaît.
Le Choré, il faudra bien le placer parce que c'est un 2023 et les deux autres, c'est des 2022. Donc le Choré, vous le mettrez avant ces deux vins-là. Ah oui. Il faut savoir aussi les placer parce que si on met les vins trop prononcés devant les vins qui sont un petit peu plus légers et qui ouvrent le tiroir, la bouche, quoi, et ben les autres, on ne peut pas les savourer.
S'ouvrir le tiroir, ça c'est vrai que j'avais jamais entendu. Hein, et c'est l'expression qui sent le terroir à la cave du Clos Maillard Lutzenov à Dijon.
Ici, tant pis pour elle, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle. Celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Qu'elle brûle avec elle. Retour à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux et toi le dieu de mon ciel. Quelle belle nouvelle. Quelle belle nouvelle. Que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Qu'elle brûle avec elle. Retour à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux. Fini ce bordel, hésitation à terme. C'est moi que tu aimes, t'as donc plus besoin d'elle. C'est la fin de querelles, des pluies torrentielles. Elle, elle pleuvait sur toi, moi, je te donne des ailes. Tu me donnes des ailes, et on s'échappe du système. Que je vide de tes veines, jusqu'à ce que rien ne t'appelle.